Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui va continuer en cette nouvelle année 2018 à tenter de décrypter les rouages de l'économie mondiale. L'occasion pour moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année, pleine de réussite, de travail et d'argent évidemment, puisqu'on parle économie. Vous aurez peut-être gagné votre vie cette année à venir et les mois passés en produisant du cacao, de la vanille, en travaillant dans une usine dont les produits seront exportés. Et si les revenus sont au rendez-vous, ce sera peut-être pour vous l'occasion d'acheter un produit agricole transformé, un ordinateur, un téléphone portable venu de l'étranger. Ces marchandises se croiseront les unes dans des soutes d'avion, les autres dans des soutes de cargo. Ce trafic aérien ou maritime, c'est une partie du commerce mondial qui conditionne nos vies. Alors en ce début d'année, comment va le commerce mondial? Que nous dit-il de l'état de l'économie mondiale? Pour en parler, deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Corinne Vatkar.
Bonjour.
Corinne Vatkar, vous êtes analyste senior à l'Institut Friedland, un think tank économique créé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Le commerce international y est votre spécialité. C'est aussi la spécialité de notre seconde invitée dans ce studio. Bonjour Cécilia Bellora.
Bonjour.
Cécilia Bellora, vous êtes économiste au CEPI, l'un des grands centres de recherche économique à Paris. Au cours de cette émission des reportages, nous irons à Buenos Aires en Argentine, où nous attend Hautevilliers, à Pékin pour retrouver Heike Schmidt, et à Casablanca où nous avons rendez-vous avec Sarah Doublier. Pour démarrer cette émission, une première question très générale. Avec la fin de l'année 2017, beaucoup de statistiques ont été publiées qui traduisent un essor du commerce mondial. Quel est le niveau des échanges marchands mondiaux? Cécilia Bellora, je vous pose la question à vous d'abord.
Alors, si on regarde les statistiques de l'OMC, on est à des exportations... Organisation mondiale du commerce, tout à fait, donc basée à Genève. Les exportations mondiales sont autour des, disons, 15 000 milliards d'euros, enfin de dollars, excusez-moi, parce que leurs statistiques sont en dollars, dont 11 000 milliards de biens. Le reste étant des services. Dans ces exportations, il y a bien entendu des pays qui, enfin, des gros exportateurs, donc les top 5 les plus élevés, c'est Chine, Union européenne, États-Unis, suivent ensuite le Japon et puis les grands émergents. Et ensuite, ce qu'on échange le plus, ce sont surtout des biens industriels.
Corinne Vatkar, ces 15 000 milliards de dollars, c'est un chiffre important?
C'est un chiffre, oui, important, qui progresse de manière plus ou moins régulière depuis 15 ans. On est sur des évolutions qui ont été puissantes dans les années 90-2000, qui le sont moins aujourd'hui. Après la crise de 2008-2009, on a eu une croissance du commerce international qui a été plutôt en ralentissement. Et aujourd'hui, on revient à des taux qui sont un peu plus dans une forme de normalité.
Mais 15 000 milliards de dollars, est-ce que c'est un chiffre important par rapport à l'ensemble des richesses qui est produite dans le monde?
Ah, c'est difficile d'évaluer.
Si mes souvenirs sont bons, en taux d'ouverture, ça veut dire la somme des importations plus les exportations par rapport au PIB, au niveau mondial, on est autour des 25-30%, je crois.
C'est-à-dire que 30% de la richesse qui est produite dans le monde est.
Ce sont des
échanges. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 30% des emplois dans le monde qui sont voués à ces produits qui sont importés ou exportés? Alors, est-ce que je vous pose une colle?
Oui, ça c'est une colle, parce que, bien entendu, le lien direct entre exportation et emploi est difficile et c'est une question délicate. Mais néanmoins, plus ce volume d'échanges est important, plus, bien entendu, ce sont des biens qui sont échangés et donc ce sont des personnes qui les produisent.
Est-ce que les produits agricoles ont une part importante? Vous disiez que c'était les produits industriels, Cécilia Bellora, mais Corinne Vatkar, les produits agricoles, est-ce qu'ils jouent un rôle malgré tout?
Oui, bien entendu, l'agroalimentaire joue une part importante. Tout dépend après les régions. La France et l'Union européenne est un grand pays, une grande région exportatrice de produits agroalimentaires. Mais il y en a d'autres dans le monde qui sont évidemment les pays du Sud, l'Amérique latine, les pays d'Afrique. Et puis, évidemment, on peut penser à certains pays d'Asie du Sud-Est ou du Sud.
Cécilia Bellora?
sans oublier aussi également Canada et États-Unis, qui eux, bien entendu, on connaît l'histoire des États-Unis avec le maïs sur lequel ils sont leaders au niveau du marché mondial.
Donc beaucoup de matières premières.
Oui. Et ce sont justement ces matières qui posent problème dans les négociations commerciales qui peut y avoir actuellement entre l'Union européenne et puis les pays du Mercosur.
Les
pays membres en sont le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, Paraguay. Voilà. Il y a des négociations qui se tiennent actuellement et la principale difficulté, eh bien, c'est la question agroalimentaire. Même chose dans le cadre de l'accord en négociation, on l'a finalisé avec le Japon, aussi avec le Mexique, il y a un accord en discussion, ça achoppe sur les appellations d'origine protégée, donc l'agroalimentaire. Et puis dans le CETA, l'accord entre l'Union européenne et le Canada, il y a évidemment eu la question agroalimentaire qui a été un sujet de discussion assez crucial.
Alors on va revenir sur tous ces sujets-là, mais d'abord un exemple de pays pour lequel les exportations agricoles comptent énormément. C'est l'Argentine qui fait partie du Mercosur. Vous venez de citer Corinne Vatkar. Le secteur agricole argentin profite en ce moment des mesures économiques que le gouvernement de Mauricio Macri a pris. Mauricio Macri qui est au pouvoir depuis 2 ans. Soja, maïs, tournesol. La production et les exportations sont au plus haut. Le blé a notamment battu tous les records avec une hausse de 10% des exportations entre 2016 et 2017. Et c'est un reportage Éco d'ici Éco d'ailleurs, signé Audevillier-Moriamé à Buenos Aires.
Pergamino vit au rythme de l'agriculture. Cette grande ville, située à 250 km à l'ouest de Buenos Aires, est encerclée par les champs cultivés. C'est également là que l'on trouve l'un des plus grands centres de l'INTA, l'Institut National de Technologie Agricole. Patricia Schutz y travaille.
Ici, on est dans une région clairement agricole. C'est ce qu'on appelle la zone nucléo, la zone centrale. Parce qu'on peut dire que la majorité de la production du pays vient de cette région. Il n'y a que des champs, c'est la pampa, la vraie.
La pampa, es bien pampa.
Soja, maïs, tournesol, on cultive de tout ici. Et de plus en plus du blé. La céréale a longtemps été délaissée par les producteurs qui ne juraient que par le soja transgénique très apprécié des marchés asiatiques. Mais les choses ont évolué depuis quelques années, comme l'explique Francisco Filiat, économiste de l'INTA.
Le gouvernement Macri a libéré plusieurs marchés. Avant, il y avait de nombreuses taxes. On a éliminé celles qui pesaient sur les exportations de maïs et de blé notamment. En fait, avant ces mesures, c'était très compliqué de cultiver autre chose que du soja en Argentine. Un autre facteur incitatif, c'est que les prix du blé sont stables, avec une tendance à la hausse.
D'où la réintroduction progressive ces 2 dernières années d'autres cultures, parmi lesquelles celle du blé. Alors qu'il était exclusivement tourné vers le soja il y a encore quelques années, le producteur Juan Carlos Ponsa a aujourd'hui diversifié son exploitation.
En 3 ans, je suis passé à 60% de soja, 30% de blé et 10% de maïs. Et je pense bien continuer comme ça à l'avenir. Notre production est très développée. Au niveau technologique, pour la production de maïs et de soja, on peut bien se comparer aux États-Unis. Et pour le blé, on peut vraiment se comparer à la France.
Gustavo Ferraris, également producteur à Pergamino et chercheur à l'INTA, a opéré la même transition vers un système de rotation des cultures.
Le blé est une culture qui nous a permis d'avoir d'excellents rendements. Notre principal client est le Brésil qui nous achète du blé de la meilleure qualité possible. Et la qualité de notre blé a de fait beaucoup augmenté ces dernières années.
Hormis le Brésil voisin, à qui 40% des exportations sont destinées, le trigo argentino, le blé argentin, séduit de plus en plus le Maghreb et certains pays asiatiques comme la Thaïlande et le Vietnam.
Un reportage signé Audevillier-Moriamé à Buenos Aires et dans sa lointaine banlieue. Cécilia Bellora, qu'est-ce que ce reportage vous inspire quant à l'importance des exportations agricoles dans l'économie d'un pays comme l'Argentine?
Alors, clairement, pour l'Argentine, les exportations agricoles, de façon générale, ont toujours occupé une place assez importante. En plus, avec le système de culture OGM du soja, ils étaient vraiment plutôt en position de leadership ou presque sur ces marchés. C'est intéressant de voir que le choix des agriculteurs était très orienté par les politiques commerciales. Comme le disait votre reportage, il y avait effectivement des taxes à l'exportation qui étaient en place et que le fait d'enlever ces taxes à l'exportation a transmis, du coup, a mieux transmis transmis les prix des marchés mondiaux aux agriculteurs qui, du coup, adaptent très vite leur production, modifient leur rotation culturelle et se mettent à produire du blé. Donc, d'une part, ils apprennent à le cultiver de façon plus intensive, j'imagine, et adaptent leur qualité à la demande du marché.
Corinne Vatkar, sur cette insertion, en quelque sorte, de l'agriculture argentine dans l'économie mondiale à cause de la baisse des taxes intérieures. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la libéralisation de l'économie ?
C'est ce qu'on appelle la libéralisation commerciale, et à cet élément tarifaire s'ajoute aussi une forte demande asiatique. Le reportage le dit, la Chine importe un volume considérable de produits agricoles en provenance de l'Amérique latine, et donc ça a été l'amorce de relations très très étroites entre l'Amérique latine, les pays du Mercosur plus spécialement, et la Chine. Et donc ça, c'est un mouvement puissant qui a d'ailleurs contribué à la hausse des matières premières agricoles à un moment donné. Donc c'est une tendance structurelle importante pour des économies comme celle-ci.
Mais tout à l'heure, vous évoquiez, Corinne Vatkar, le Mercosur et les difficultés qui étaient générées par les appellations d'origine contrôlée, c'est cela ?
Oui,
entre ces pays-là, mais est-ce qu'il y a une appellation d'origine contrôlée pour le blé ?
Alors non, c'était à propos du Mexique.
Oui, c'était du Mexique. Voilà.
C'est à propos du Mexique que je parlais de ça. Je n'en connais pas particulièrement, sur le Mercosur. Maintenant, c'est à propos des appellations d'origine protégées dans les pays de l'Union européenne qu'il y a un achoppement des discussions, des négociations.
Donc entre blocs.
Entre blocs, oui, on peut dire ça.
Ça n'est pas au sein de cette alliance régionale qu'est le Mercosur.
Non, pas particulièrement.
Oui.
Néanmoins, ça me faisait également penser, au-delà de la question de l'appellation d'origine, le fait que l'Argentine devienne un grand exportateur de blé montre bien le changement des intérêts dans les négociations commerciales, parce que une négociation entre le Mercosur, auquel appartient l'Argentine, et l'Union européenne, où il y a la France et d'autres grands pays producteurs de blé, on voit bien que baisser des tarifs douaniers sur le blé à l'importation depuis l'Argentine peut poser problème aux agriculteurs européens, par exemple. Donc, typiquement, dans les intérêts et dans les points d'achoppement possibles des négociations, il y aura très probablement cette question du blé.
Et c'est quelque chose dont on parle au sein de l'Organisation mondiale du commerce, ce genre de problème ou pas ?
Là, pour le coup, on va en parler surtout au sein des négociations Mercosur-UE, puisque au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, en fait, on se met d'accord pour baisser tous ensemble, enfin, avec les différences entre pays développés et pays en développement, mais on se met d'accord pour baisser tous ensemble les tarifs douaniers, alors que là, ça va être, ce dont je parlais, c'est surtout une question bilatérale, UE-Mercosur.
Alors, on va parler de l'Organisation mondiale du commerce. Maintenant, je voudrais vous faire entendre ce que disait la ministre des Affaires étrangères argentine, Susana Malcora, à l'issue de la 11e conférence ministérielle de l'OMC. C'était à Buenos Aires, précisément. Le 13 décembre dernier, Susana Malcora répondait à la question d'un journaliste sur les limites de l'action de l'OMC. On l'écoute.
Il faut reconnaître que nous sommes à une époque où les pays les plus importants de la vie économique mondiale entrent dans une phase où ils donnent la priorité à leurs propres intérêts. Il y a beaucoup de questions. On peut débattre du lien entre le protectionnisme et le commerce, quand en réalité ce qui affecte fondamentalement les créations d'emplois, c'est l'innovation technologique. Il y a beaucoup d'études à ce sujet. La réalité, c'est que la vision égoïste du monde a tendance à l'emporter. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que quand cela arrive, ce que nous avons à notre disposition de plus important, c'est une table autour de laquelle on s'assied et on peut discuter de ces questions. Évidemment, ce qui se passe en ce moment complique les choses. Mais je veux vous rappeler qu'à une époque, pas si lointaine, au XXe siècle, quand ces choses-là se produisaient, il y avait des guerres. L'OMC est un élément fondamental pour éviter que tous ces mouvements produisent un tel niveau de tension que cela débouche sur des décisions beaucoup plus graves encore, comme cela aurait été le cas sans en arriver à une guerre physique si l'OMC n'avait pas existé lors de la crise de 2007-2008. Sans l'OMC, des mesures commerciales auraient été prises qui auraient eu un effet totalement régressif dans le monde.
C'était donc Susana Malcora, la ministre argentine des Affaires étrangères, le 13 décembre dernier, à l'issue de la 11e conférence ministérielle de l'OMC. L'OMC ou la guerre, c'est un peu ce qu'elle nous dit. Cécilia, qu'est-ce que vous en pensez, Cécilia Bellora?
Clairement, là, on a un message qui est politique. C'est-à-dire, je dirais, éventuellement, c'est soit l'OMC, soit la guerre commerciale. Mais bon, entre l'étape OMC, guerre, bon. Mais cela étant dit, c'est vrai que l'OMC a un rôle de table de négociation multilatérale, et en particulier en plus avec son organe de règlement des différends, elle permet aux pays de se plaindre, de porter plainte et d'essayer de résoudre leurs problèmes entre eux avec un système contraignant. Mais par contre, ce système est de plus en plus mis à mal, il est de plus en plus compliqué à utiliser. On sait que les États-Unis bloquent depuis des mois le renouvellement des juges dans le système d'appel de cet organe de règlement des différends, ce qui fait que le traitement des dossiers s'allonge énormément et on n'arrive plus à évacuer ces dossiers, donc ces plaintes, ces tensions entre pays, alors même que ces tensions augmentent de façon importante. La ministre l'a en partie dit, la situation de crise économique a bien entendu amené les pays à se retourner un peu plus vers eux-mêmes et du coup à arrêter un peu le processus de libéralisation. Et donc il y a des tensions sur les marchés et sur ces questions d'échange qui sont de plus en plus importantes.
Corinne Valcar, la ministre argentine Susana Malcora, disait aussi que lors de la crise de 2007-2008, la crise financière, l'OMC était intervenue pour apaiser les choses, pour éviter une guerre commerciale. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, tout à fait. L'OMC a joué un peu le rôle de régulateur un petit peu dans cette crise. En tout cas, elle a été un garde-fou absolument essentielle. Elle a évité finalement qu'il y ait trop de litiges commerciaux. Elle a rappelé à l'ordre un certain nombre d'États. Et puis, elle a aussi mis l'accent sur l'importance de négocier des règles pour lutter contre les subventions, lutter contre le dumping, toutes ces pratiques voilà qui sont parfois contre la concurrence. Et donc, tout ça, il est certain que le système commercial international a été finalement, après la crise de 2008, joue un rôle important finalement dans la détérioration des relations commerciales internationales. Aujourd'hui, pour autant, on peut pas ignorer le fait que le scénario d'une guerre commerciale n'est pas complètement exclu. On l'a un peu évité en 2017. En 2018, il y a un certain nombre d'annonces américaines qui devraient nous donner une idée de ce que va être la politique commerciale américaine. Et à partir de là, on verra s'il y a rétorsion ou pas de la part d'autres pays. Et l'OMC, à travers l'organe de règlement des différends dont a parlé Cécilia, aura éventuellement un rôle pour autant que voilà la situation liée à la nomination des juges soit réglée.
On va en parler dans la deuxième partie de l'émission de la politique américaine, de l'attitude de Trump. Mais en fait, en ce mois de janvier 2018, le 70e anniversaire de l'entrée en vigueur du GATT. L'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui était le prédécesseur de l'OMC. Est-ce qu'il y a de grandes différences entre ce GATT et l'OMC, Cécilia Bellan?
Fondamentalement, toute la partie tarifaire, et y compris les systèmes de défense par rapport à du dumping et de la subvention, c'est ce qui était marqué dans le GATT. De ce côté-là, c'est pas. D'ailleurs, quand vous regardez, y compris sur le site de l'OMC, que vous regardez les textes qui régissent l'OMC, les liens vous renvoient vers les textes du GATT.
Donc, c'est une longue tradition.
C'est une longue tradition. Alors, bien entendu, aujourd'hui, on traite des questions nouvelles, le commerce numérique, tout ce qui est commerce dématérialisé, tout ce qui est droit de propriété intellectuelle, par exemple. Et puis, surtout, les membres ne sont plus les mêmes et la géopolitique n'est plus la même non plus, puisqu'on a eu la montée en puissance des émergents qui aujourd'hui ont de plus en plus d'importance, y compris dans les négociations. Et on le voit, ça fait déjà plusieurs ministériels où c'est l'Inde qui s'oppose de façon frontale aux États-Unis et qui du coup, pas forcément bloque les négociations. Il n'y a pas que elle, mais voilà, elle se dresse et elle affirme sa position.
Nous continuons à parler de tout ça et des États-Unis, comme je le disais, dans la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré au commerce mondial. On se retrouve dans quelques minutes après un flash d'actualité. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.
Thank you.
Éco d'ici, éco d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bienvenue dans la deuxième partie de cet Éco d'ici, Éco d'ailleurs consacré au commerce mondial. Deux invités dans cette émission, Cécilia Bellora, économiste au CEPI, un des principaux centres de recherche économique français, et Corinne Vatkar, analyste senior à l'Institut Friedland, un think tank proche de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons parlé de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, fait un tout petit peu d'histoire et vu le rôle de l'agriculture dans le commerce mondial. Et puis, nous avons prononcé le nom d'un pays qui est évidemment au centre de l'attention depuis presque deux décennies maintenant. C'est la Chine qui importe beaucoup de produits agricoles et qu'on a parfois qualifié d'aspirateur à matières premières, donc produits agricoles et produits du sous-sol. Est-ce le seul rôle de la Chine dans le commerce mondial, Corinne Vatkar ?
Non, aujourd'hui, la limiter à un rôle d'initiateur dans les échanges agroalimentaires et agricoles, ce serait restrictif. Elle a été qualifiée d'usine du monde à partir des années 90-2000, quand elle a intégré l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, elle produit un volume significatif de produits industriels qu'elle diffuse à travers le monde. Et elle a l'ambition de devenir, avec sa stratégie 2025, une des premières puissances industrielles. Et donc tout l'enjeu est à travers ces nouvelles routes de la soie de diffuser ces nouveaux produits, ces nouveaux produits industriels ainsi que des services de plus en plus à plus forte valeur ajoutée. Elle s'intègre définitivement dans l'économie mondiale.
Cécilia Bellora, est-ce que la Chine exporte des produits à plus haute valeur ajoutée ?
Oui, clairement,
monte en gamme ?
Clairement, il y a une montée en gamme. L'entrée de la Chine dans le commerce mondial, c'était une question de participer aux chaînes de valeur mondiales. Donc, pendant les années 2000, ce fractionnement des processus de production en beaucoup de petites tâches, chaque tâche étant faite dans un pays différent en fonction de ses avantages comparatifs.
L'exemple
que tout le monde connaît, c'est l'iPhone. On a ces magnifiques schémas qu'on voit sur la valeur ajoutée et le nombre de pays dans lesquels sont passées les différentes composantes d'un iPhone avant d'arriver au produit fini. Et donc, elle est rentrée là-dedans dans ce commerce international et dans ce fonctionnement plutôt avec comme un pays où la main-d'œuvre coûtait vraiment pas beaucoup et la qualification était faible, mais du coup c'était des prix très réduits, et aujourd'hui elle essaye du coup de capter une part plus importante de la valeur ajoutée, exécuter plus de ses tâches directement en Chine sans avoir à réexporter les produits. Donc elle exporte des produits qui sont davantage finis. Et puis, il y a aussi toute cette politique de se recentrer vers son propre commerce et sa propre économie. Et du coup, dans ce sens-là, c'est une montée en gamme puisqu'elle intègre toute la chaîne de production.
Corinne Vatkar, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, tout à fait. Il y a une véritable montée en gamme de l'offre chinoise. Cette montée en gamme concurrence évidemment les grands groupes occidentaux. Elle est concurrence en Europe, elle est concurrence en Amérique du Nord, mais elle est concurrence aussi sur les marchés tiers, que ce soit l'Afrique ou l'Asie. Et donc, c'est une puissance avec laquelle il faut absolument compter. Alors, certains grands groupes finalement se décide à nouer des alliances avec des champions chinois. C'est peut-être ça l'avenir. Dans tous les cas, il y a un marché chinois qui est très très important et que les grandes entreprises occidentales ne peuvent ignorer, donc elles doivent aussi être présentes. Et donc cela participe encore davantage à cette globalisation, à ces flux de plus en plus croisés entre les différents pays de ce qu'on peut appeler une nouvelle triade qui serait l'Amérique du Nord, l'Europe et puis la Chine.
Alors voilà un autre exemple du rôle de la Chine, c'est le numéro 1 du luxe dans le monde, du vrai luxe et du faux. C'est le plus gros marché au monde pour les marques de luxe, mais dans le même temps, les Chinois sont les principaux producteurs de contrefaçons. Écoutez ce reportage Éco d'ici et Éco d'ailleurs dans l'univers du luxe, le vrai et le faux. Il est signé Heike Schmidt à Pékin.
Bienvenue au marché Hongqiao, le paradis des faux produits de luxe. Exposée dans l'une des vitrines, une montre Rolex attire nos regards. Le prix est imbattable, 20 euros.
Elle est fausse, bien sûr, mais si je mets l'une à côté de l'autre, vous n'allez pas vous en apercevoir. L'original avec un diamant incrusté coûte 14 000 euros. Mais je vous vends une bonne copie pour 150 euros.
Avec une montre comme ça, est-ce que j'aurais pas de problème à la douane?
Aucun souci, nos montres sont vendues dans le monde entier. Vous la mettez dans votre valise, les douanes s'en fichent.
À l'étage, une vendeuse propose des sacs à main en cuir Dior, Prada, Hermès, tout est là.
Quelle marque aimez-vous?
Chanel.
Voilà, j'ai ce modèle Chanel, en peau de chèvre, très doux.
2200 RMB pour un sac de Chanel, ça fait 300 euros.
Le prix original est celui-là.
Et l'original coûterait 42 250 RMB, ce qui fait 6 000 euros.
Je vous donne une réduction. Venez, quelle est votre dernière offre?
La Chine, le royaume du faux. 72% des contrefaçons dans le monde viennent d'ici, a rapporté cet été Europol. L'agence de police estime que plus de 12% des produits exportés sont contrefaits. Mais l'avenir de cette zone grise est loin d'être rose, estime Stéphanie Yao, analyste chez Euromonitor.
Le régulateur chinois s'est attaqué au marché des contrefaçons et à partir de 2015, la Chine a commencé à réduire les taxes d'importation. On en est déjà à la quatrième baisse des tarifs, y compris pour les articles de luxe. Je pense que ces politiques sont de mauvais augure pour le marché gris.
Les contrefaçons perdent leur avantage et les grandes marques en profitent. Des allées carrelées en marbre blanc, des boutiques huppées sur cet étage. Nous voilà dans le plus grand temple du luxe de la Chine, avec ses boutiques Versace, Louis Vuitton, Chanel et Dior. Madame Miao sort du magasin Dolce & Gabbana, un grand sac à la main.
J'ai acheté un t-shirt pour ma fille à 256 euros. Avant, j'achetais plus à l'étranger, c'était moins cher, mais maintenant, même à Pékin, on trouve les nouvelles collections et les prix sont compétitifs.
Plus la peine de voyager à Hong Kong, Paris ou New York. Aujourd'hui, les riches chinois se font plaisir chez eux. La consommation locale est en hausse.
Si je suis en voyage à l'étranger, j'en profite pour découvrir les articles de luxe. Mais Hong Kong a perdu ses avantages. Ils vendent maintenant les montres et les bijoux plus chers qu'ici. Il n'y a plus que le service qui est mieux qu'en Chine.
En 2017, le marché du luxe a généré plus de 200 milliards d'euros. Mais celui des contrefaçons reste bien plus important. Important encore, avec une valeur estimée à 330 milliards d'euros.
Un reportage signé Heike Schmidt à Pékin, passionnant dans cet univers du luxe. Le luxe, le faux, la contrefaçon qui semble en perte de vitesse mais reste très important. Est-ce que ça veut dire que la Chine est en train de passer sous les fourches codines des normes du commerce mondial? Est-ce que la Chine se normalise, Corinne Vadkar?
Quelque peu, on peut effectivement répondre que ce reportage, je ne dis pas qu'il appartient au passé, hein, il y a une véritable pratique de la contrefaçon dont pâtissent les entreprises occidentales. On ne peut pas nier voilà les dommages que ça représente. Pour autant, aujourd'hui, les Chinois veulent effectivement du vrai. Ils s'attachent voilà à tous ces produits qui relèvent de l'élévation du niveau de vie. Et finalement, ce qui est peut-être le plus important aujourd'hui, c'est d'être présent en Chine pour être au plus près du consommateur. C'est ça un petit peu la réalité des affaires. Donc, et le reportage l'illustre tout à fait.
Alors, il y a des normes quand on veut exporter, quand on veut importer. Cécilia Bellora, est-ce qu'il y a des normes sociales, des normes environnementales? Est-ce que ce sont de nouvelles barrières douanières, ces normes?
Dans tous les cas, c'est ce qu'on appelle des mesures non tarifaires, et donc ça a un impact qui peut être restrictif, parfois il peut aussi être positif, sur les échanges, clairement. D'ailleurs, aujourd'hui, suite, comme on disait tout à l'heure, aux différentes décennies de baisse des barrières douanières, donc tarifaires à l'OMC, ces mesures non tarifaires sont les principales... Enfin, c'est là que se joue la libéralisation, c'est ça qui...
Par exemple,
des labellisations. Par exemple, quand vous importez un frigidaire en Union européenne, il faut qu'il ait l'étiquette qu'on connaît bien sur la catégorie d'énergie, combien d'énergie il utilise, etc. Et ça, pour l'exportateur, c'est un coût. Accéder sur un marché où cette étiquette est obligatoire, en plus, il faut qu'il produise l'étiquette, qu'il ait les données, que quelqu'un y vérifie que son étiquette est bonne, alors qu'exporter sur un marché où cette étiquette n'est pas obligatoire, ça ne pose pas de problème. Et en plus, il y a une deuxième question, c'est que chaque pays ou chaque bloc de pays peut avoir des étiquettes de ce de ce type, mais différentes, et donc il faut avoir plusieurs systèmes. Donc c'est là-dessus qu'aujourd'hui se jouent les négociations, mais c'est d'ailleurs aussi pour ça, c'est un sujet qui est très sensible, parce que les mesures non tarifaires n'ont pas forcément pour objectif premier d'être des barrières au commerce. On vient de le voir, la question de l'étiquette sur un frigidaire pour l'énergie, c'est une question environnementale aussi, ce sont des préférences des consommateurs. Donc toucher à ces mesures-là, ça touche aux préférences des consommateurs et forcément on est particulièrement sensible à ça et on voit ce que ça donne quand on a des négociations comme le CETA, le TTIP, le TPP, etc. Les oppositions qu'on voit dans l'opinion publique sont aussi liées à ces questions-là.
Corinne Wadkar.
Oui, ce que je voulais ajouter, c'est le fait que sur la propriété intellectuelle, la Chine a fait des efforts considérables, voilà, pour faire en sorte que ces produits soient conformes aux règles internationales. Et il y a eu vraiment, pendant des années, les services des ministères chinois sont venus en Europe, aux États-Unis, pour voir comment les produits occidentaux se mettaient en conformité avec les règles internationales. Donc, il y a eu une véritable amélioration. Et donc, on peut dire aujourd'hui que c'est dans l'intérêt finalement des Chinois d'avoir une offre globale qui soit en conformité avec les règles internationales puisque ça leur permet d'accéder au marché. Il y a des exemples par exemple dans l'automobile où finalement à défaut de respecter les normes européennes, les entreprises chinoises n'ont pu accéder à ce marché. Pour se donner un exemple de problématique liée à l'étiquetage par exemple, c'est un vrai enjeu lié aux obstacles techniques au commerce. Tout ce qui est conformité aux règles, grâce à une discussion entre les Chinois et puis les Européens, le secteur les cosmétiques a réussi à faire en sorte que toutes les règles d'étiquetage qui étaient mises en place par les Chinois ces derniers temps soient suspendues pour éviter qu'il n'y ait pas un préjudice important sur ce secteur en Chine.
Est-ce que les Chinois, on a vu le président Xi Jinping à Davos il y a à peu près un an, faire l'éloge du libéralisme, est-ce que les Chinois sont devenus l'avant-garde du mouvement de libéralisation du commerce mondial, Cécile Bellorin?
C'est une question qui est délicate parce que d'un côté, la Chine est de toute façon devenue aujourd'hui, c'est le premier exportateur mondial. Donc, ils ont clairement intérêt à ce qu'il y ait des barrières faibles dans les pays vers lesquels ils exportent. Comme on le disait, il y a une vraie évolution dans la façon de produire et y compris de se comporter. Donc, introduction des normes, respect plus important. Mais en même temps, ça reste une économie qui est centralisée, dans laquelle il peut y avoir des subventions très importantes et dans laquelle il peut y avoir aussi un décrochage, un décalage important entre ce que dit le pouvoir central et ce qui est fait au niveau des pouvoirs régionaux et locaux. On l'a vu, en fait, c'était ça l'enjeu de la discussion qu'il y a eu maintenant, il y a un peu plus d'un an, donc décembre 2016, sur le fait d'accorder ou pas le statut d'économie de marché à la Chine. Donc c'était tout comment on fait pour avoir un arsenal de protection contre des pratiques déloyales contre la Chine, alors qu'on a énormément de mal. On sait que tout ne fonctionne pas comme chez nous, donc il y a des normes qui ne sont pas respectées, qu'il peut y avoir des subventions publiques, qu'il peut y avoir des entreprises d'État qui ont des productions qui sont complètement dirigées, donc des entreprises qui ne fonctionnent pas selon les règles du marché. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de mal à le démontrer et on a beaucoup de mal à se défendre de façon efficace et rapide contre ces éléments. Donc là est toute la difficulté entre profiter de cet essor chinois, de ce marché chinois qui est très important, laisser en contrepartie les produits chinois éventuellement bon marché arriver sur nos marchés, ce qui est toujours intéressant pour le consommateur, mais en même temps ne pas se faire avoir dans cet échange-là.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons du commerce mondial avec deux invités, Cécilia Bellorin, économiste au CEPI, et Corinne Wadkar, qui elle est analyste senior à l'Institut Friedland, qui dépend de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Il y a un homme qui nous hante en ce moment dans l'actualité mondiale, dont on n'a pas encore prononcé le nom, je crois, au cours de cette émission, c'est celui du président américain Donald Trump, qui a fait toute sa campagne et qui multiplie les déclarations protectionnistes. Est-ce que ce protectionnisme américain est à l'œuvre aujourd'hui, Corinne Wadkar?
Alors, comme je disais tout à l'heure, on a eu peur en 2017 et puis finalement, il y a eu plus d'annonces faites par le candidat Trump que de réalité tangible mise en œuvre par le président Trump. Pour autant, au cours de ce premier trimestre, il va y avoir un ensemble d'investigations qui ont été menées en 2017 qui vont être publiées, qui concernent les importations sur des lave-linges, sur les questions de d'acier et d'aluminium, sur des panneaux solaires, voilà, sur un ensemble de dossiers assez tangibles qui sont le plus souvent déclenchés par des industries qui estiment que voilà, ils ont subissent une concurrence étrangère importante. Eh bien, les autorités américaines vont rendre des décisions, et là on verra si il y a une mise en œuvre de tarifs, d'obstacles tarifaires ou de mesures de sauvegarde, ce qui finalement était des pratiques encore relativement modestes côté américain.
Mesures de sauvegarde, ça veut dire
Oui, c'est-à-dire quand un secteur est menacé par une concurrence étrangère, les règles de l'OMC autorisent le secteur dans le pays en question à prendre des mesures conservatoires de protection pour faire en sorte que ce secteur soit protégé de cette concurrence résultant d'importations massives à un moment donné.
Mmh. Voilà. Cécilia Bellorat, la politique économique commerciale de Trump vous inquiète ou...
En fait, aujourd'hui, on a vu beaucoup d'agitation. Ce qui a quand même eu comme conséquence directe de mettre sous tension, on le disait tout à l'heure, vraiment le système commercial. Et à chaque fois, on se dit qu'on est au bord de la guerre commerciale. Après, concrètement, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu les investigations dont on vient de parler. On a vu le retrait des États-Unis de l'accord transpacifique. Alors après, avec la question, est-ce que c'était vraiment dans l'intérêt des États-Unis ? Mais ça, c'est une autre discussion. Et puis, on a vu remettre sur la table cette question de la l'ENA, donc de l'accord de libre-échange nord-américain qui depuis le mois d'août 2017 est en cours de renégociation, donc entre États-Unis, Canada et Mexique. Et là-dessus, ça c'est clairement des choses concrètes. Et l'autre chose concrète, c'est quand même aussi la position des États-Unis au niveau de l'OMC, c'est-à-dire qu'ils ne se positionnent plus en tant que leader des discussions. Ils sont un peu en marge, c'était ça ce qu'on lisait dans les commentaires de la dernière ministérielle à l'OMC. Et puis, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, donc ils freinent vraiment le fonctionnement de l'organe de règlement des différences, qui met à nouveau complètement sous tension le système. On risque d'avoir en 2018 des remontées tarifaires très importantes, mais sur certains produits, de toute façon... Tant qu'ils sont dans le cadre de l'OMC, ils ne pourront pas augmenter plus. Et puis, on a tout cet ensemble de petites mesures. Et puis, surtout, ce qui est terrible, c'est le côté complètement imprévisible de la politique commerciale américaine. Et ça, ça fait peser une incertitude vraiment, vraiment importante sur le système.
Corinne Vatkar, on parle de guerre commerciale potentielle. Ça veut dire quoi, guerre commerciale ?
Guerre commerciale, ça commence par une mesure, un peu défensive, et ça suscite généralement une réaction du partenaire commercial, typiquement, entre les États-Unis et la Chine, puisqu'à travers toutes les mesures qui sont annoncées, eh bien, c'est la Chine qui est visée, à tort ou à raison, et de fait, la Chine s'est exprimée à plusieurs reprises pour dire attention, là, il y a une mesure protectionniste sous-jacente, donc, il ne faut pas tomber dans un phénomène de représailles. Maintenant, oui, c'est la question du leadership américain sur le système commercial international qui est posée. Et la Chine, elle entend finalement profiter de ce vide. On l'a vu à la ministérielle de Buenos Aires.
La conférence ministérielle qu'on évoquait tout à l'heure.
Et finalement, qu'est-ce qui va augurer après ces non négociations? L'idée qui émerge, c'est le fait qu'il y ait des coalitions entre différents pays pour avancer sur un certain nombre de règles nouvelles dont ont besoin l'économie, qu'il s'agisse du e-commerce, de la facilitation de l'investissement. Et donc, c'est peut-être par ce biais-là qu'on pourra amener finalement à la table, si ce n'est les États-Unis, peut-être la Chine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, redessiner les règles du système commercial international, c'est les redessiner pour renforcer une régulation un peu contre la Chine, sans la désigner véritablement. Donc l'exercice n'est absolument pas simple.
Mais qui est-ce qui fait la politique commerciale aujourd'hui ? Est-ce que ce sont les nations, les États, les coalitions ? Ou est-ce que ce sont les grandes entreprises comme Amazon, comme Apple ? Qui est leader, Cécilia Bellorat ?
En termes de qui fait la politique commerciale, la décision reste au niveau des nations, bien entendu. Après, on sait très bien que qui fait le commerce, donc qui échange, ce sont ces entreprises-là, et qui, du coup, ont un pouvoir de lobby qui est extrêmement fort sur les pouvoirs publics. Donc, de fait, ça reste les gouvernements qui font leur politique commerciale, mais sous l'influence de ces grands groupes. Et on sait qu'en plus, il y a quelques grands groupes qui réalisent la plus grosse partie des échanges internationaux, et donc qui ont vraiment des positions importantes et dominantes.
Corinne Vodkar, il y a Apple, il y a Amazon, il y a Alibaba.
Oui, et évidemment, les plateformes américaines et chinoises, elles concentrent une valeur de plus en plus importante. Elles sont leaders globaux sur les marchés, et cela se fait au détriment d'autres acteurs, que ce soit des grands groupes, des PME, sans même parler de micro-entreprises. Donc tout ça pose des problèmes cruciaux. Et j'ai plutôt tendance à penser que finalement, en l'absence de mesures de libéralisation ou d'ouverture commerciale, les entreprises, par leur stratégie, et on l'a vu dans les années 90-2000, quand elles sont entrées dans des systèmes d'approvisionnement de chaînes de valeur mondiales, elles ont joué un rôle décisif.
De quelle manière ?
Mais finalement, en décidant d'internationaliser leur système de production, en allant produire dans les pays à bas coût, pour ensuite se repositionner sur des segments beaucoup plus à plus forte valeur ajoutée, comme la distribution, comme le service client, comme la logistique, le transport, la R&D, bien entendu,
la recherche et développement.
Donc tout ça, finalement, joue un rôle essentiel, et bien souvent, on a des pratiques qui peuvent inciter finalement les États également à ressentir le besoin de réguler ou en tout cas d'écrire un certain nombre de règles sur la révolution digitale. Le phénomène de plateformisation invite évidemment les États et l'OMC à se poser la question des règles qui vont être pertinentes, et celles-ci pour l'instant ne sont pas écrites, d'où finalement les conflits, les relations de bloc à bloc qu'il va y avoir à l'avenir pour écrire ces nouvelles règles.
Le continent qui joue malheureusement, le rôle le moins important dans les échanges commerciaux internationaux, c'est le continent africain, environ 2% des échanges, c'est très peu. Le Maroc, par exemple, importe l'essentiel de ses besoins énergétiques, mais dans l'autre sens, il exporte des produits agricoles et du phosphate. Et surtout, le pays mise sur sa position de carrefour entre l'Europe et l'Afrique d'un côté, les mondes arabes et asiatiques de l'autre. Les opérateurs marocains essayent de jouer le rôle d'intermédiaire à défaut d'être de gros importateurs ou de gros exportateurs. À Casablanca, un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Sarah Doublier.
Et ils sont venus pour rencontrer les Marocains.
À Casablanca, on ne compte plus les rendez-vous d'affaires entre acteurs économiques du continent africain. On multiplie les contacts privilégiés avec ceux qui vont en Afrique, une terre de débouchés. À l'office des foires de Casablanca, une centaine d'exposants chinois est venu ce jour-là présenter leurs marchandises, car pour les organisateurs, le royaume est devenu une terre d'intérêt pour le business, et ce pour plusieurs raisons. Warda Asmara est en charge de l'événement.
Le Maroc prend plus de place. Il est la porte, le hub de l'Afrique. Il est à la liaison, si vous voulez, entre les investisseurs étrangers, les Marocains, donc ils vont faire des colocalisations dans différents pays, que ce soit l'Afrique ou ailleurs. Nous avons des grosses sociétés qui sont dans la construction, nous avons de grosses sociétés qui sont dans les énergies renouvelables, dans plusieurs domaines, si vous voulez, très importants, où le Maroc est allé investir ailleurs.
Certains secteurs jusqu'alors rentables au Maroc sont aujourd'hui dans la zone grise. James Desforges est français, il est actif dans l'hôtellerie depuis près de 15 ans dans le Royaume. Il suit de près le virage africain du Maroc et ses nouvelles potentialités avec l'Asie.
Les autorités gouvernementales mettent le paquet pour développer les activités commerciales avec la Chine. Il y a plusieurs projets, gros projets qui sont en train de se mettre en place. Un projet à 10 milliards de dollars dans la région de Tanger. Là, il y a le patron de constructeur automobile BYD qui a signé un protocole d'accord pour installer des usines de construction automobile électrique au Maroc. Donc on peut dire que ça bouge, quoi.
Même du côté des entreprises marocaines, on apprécie d'être convoité. Mais il manque, selon Mounir Amine, importateur de matériaux de construction, encore des mesures à prendre pour entrer dans le concert des nations du commerce international.
En tant qu'acteur ici au Maroc, je pense qu'il n'y a pas un encouragement pour l'industrie, pour développer l'industrie marocaine. L'énergie, elle coûte cher. Tout ce qui est approvisionnement en matières premières et tout ça, c'est pas trop clair. Le gouvernement marocain, il encourage beaucoup plus quelques secteurs au détriment d'autres. Par exemple, le secteur automobile et de l'aéronautique, il est fortement encouragé au détriment des autres secteurs.
Aujourd'hui, principal terrain de transit pour les investisseurs du continent africain, le Maroc peine toujours à contenir son déficit commercial, qui s'est encore aggravé de plus de 13% ces derniers mois, se chiffrant à plus de 78 milliards de dirhams, soit près de 7 milliards d'euros.
Un reportage signé Sarah Doublier à Casablanca. Cécilia Bellora, on a l'impression que le Maroc essaye d'entrer dans le système des chaînes de valeur.
Il y a effectivement cette volonté de rentrer dans ce système de chaîne, en sachant en plus qu'il a une position stratégique. Tanger est un très grand port. Il est géographiquement l'interface Europe-Afrique. Et puis il y a aussi, en fait, en parallèle, la volonté de bénéficier des stratégies de développement typiquement chinoises, avec ces histoires de route de la soie et de la signature récente. Et en fait, commerce et développement vont de pair. Donc, les Chinois proposent des investissements pour du développement, mais aussi pour de l'infrastructure. Et donc, c'est cette volonté de jouer sur les deux fronts.
Corinne Vatkar, pour le mot de la fin,
oui,
de cette
le Maroc illustre tout ce qu'a fait l'importance finalement aujourd'hui pour une économie de s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiale et non pas de développer un modèle de croissance propre et de s'inscrire surtout dans une relation commerciale entre l'Asie et l'Europe et évidemment l'Afrique. Et donc ça, c'est absolument pertinent pour l'avenir.
L'enjeu étant d'arriver à construire une relation équilibrée, ce qui n'est pas du tout gagné avec la Chine aujourd'hui.
Finalement, c'est vous, contrairement à ce que j'annonçais, qui aurait eu le mot de la fin, Cécilia Bellora. Merci à vous deux, Cécilia Bellora.
Je partage cette opinion.
Et Corinne Vatkar, d'avoir participé à cette émission, de nous avoir éclairé sur le commerce mondial. Cette émission est donc maintenant terminée. Elle a été réalisée, mise en onde par Julien Maguarou. Vous pouvez nous réécouter en podcast sur notre application Pure Radio et sur notre site internet RFI.fr dans la rubrique émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques. Au revoir.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.